Ça enregistre. Alors, en préparant le message pour ce soir, l'étude, je me suis dit, il ne faut pas que ce soit un message bateau, et donc ce sera un message sur les bateaux, et les bateaux dans la Bible. Et nous allons voir que les bateaux dans la Bible ont une leçon spirituelle pour nous. Le bateau, c'est quelque chose que l'homme fabrique, mais qui permet de naviguer sur les eaux. Et c'est particulier de faire du bateau parce qu'on est vraiment au milieu des éléments. On fait un avec l'élément de la mer, de l'océan, et on réalise notre petitesse, on réalise notre fragilité. Même sur les grands paquebots, le Titanic étant l'exemple suprême, on reste fragile quand on est dans un bateau. C'est différent de l'avion. L'avion est dans les airs, on ne se sent pas trop un avec les éléments, mais sur le bateau, on sent tous les remous, tout le vent qui souffle. C'est merveilleux de faire du bateau, du voilier en particulier. Il y a cette impression de liberté, quand vous êtes seul, il n'y a aucune terre, et vous êtes là entre le soleil et le ciel et la mer. Et en même temps, le bateau, c'est quand même souvent des dangers. Et on va voir que les bateaux dans la Bible peuvent apporter des dangers et aussi des leçons spirituelles. Le premier dont j'aimerais parler, évidemment, c'est l'arche de Noé. Hein? Alors, si vous avez votre Bible, vous pouvez regarder en Genèse 6. Genèse chapitre 6. Et si nous regardons à partir du verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et puis au verset 14, « Fais-toi, Noé, une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Et Dieu lui donne le plan de ce navire qui n'était pas fait pour naviguer, en fait, c'était fait pour flotter principalement et résister à ce déluge terrible qui a noyé la terre de cette époque. Comment les hommes en sont arrivés là à ce que toutes les pensées de leur cœur se tournent exclusivement chaque jour vers le mal? On voit au début du chapitre 6 que les anges déchus viennent vers les femmes, vers les femmes humaines, et qu'il y a une corruption de la race humaine par Satan, l'ennemi de Dieu. Et que cette corruption est telle que les hommes, au lieu de penser à faire du bien, se mettent à désirer le mal et à imaginer le mal et à commettre le mal. Voyant que la race humaine est en voie de perdition totale, de corruption, un peu comme le levain fait lever toute la pâte, Dieu décide de juger et d'exterminer la race humaine. Mais il va garder une famille, la famille de Noé, parce qu'ils ont trouvé grâce à ses yeux, parce qu'il est juste. Hein. Noé était un homme juste et intègre, un homme de foi aussi. Et ce sont eux qui vont recommencer l'humanité et qui vont permettre de redémarrer d'une façon juste et pure et non pas corrompue. Sans ce déluge, le Messie, le Sauveur, n'aurait pu venir. Parce que toute la race humaine aurait été totalement corrompue sous le règne de Satan. L'époque de Noé ressemble un peu et même beaucoup à notre époque. D'abord, on est frappé par l'imagination des êtres humains pour torturer leurs concitoyens, pour faire du mal. Il y a des personnes, ils sont depuis leur enfance en train de penser « comment je vais faire du mal à mon prochain ?» Ils ont toujours une raison, forcément, hein, mais c'est les terroristes, ce sont les criminels. ce sont les psychopathes, les pédophiles, et puis il y a plein de gens qui ne sont pas, qui vont pas aussi loin dans leurs crimes, mais la majeure partie de leur pensée est occupée aux choses impures, occupée à des choses d'orgueil, d'égoïsme. Beaucoup se passe, commence dans la pensée, hein, quand on dit oh, je hais tout le monde, je suis le meilleur, ou ah, tous ces gens, et on est tout le temps en train d'être irrité avec les autres, de les juger, de les jauger, ou quand on essaie de dépasser tout le monde, d'être le premier, de gagner plus d'argent. Et toutes ces pensées-là sont mauvaises et conduisent à de plus en plus de mal. On voit certaines personnes qui arrivent en fin de vie qui sont particulièrement aigries et revêches et difficiles, pas simplement parce qu'elles sont âgées, mais ces personnes-là, ces hommes et ces femmes, ont accumulé des années de mauvaise conscience, des années de mauvaises pensées, et à la fin, ça éclate au grand jour. Et c'est vraiment triste et terrible. Mais Dieu a toujours un moyen de salut et de grâce. Et l'arche, c'est vraiment le bateau du salut. Par ce bateau, il y a une possibilité d'être sauvé. Et Dieu dit, tu vas faire cette arche, il lui donne des plans de façon à ce que ce bateau immense puisse flotter, accueillir beaucoup de monde, et en particulier toutes les espèces animales qui étaient autour de Noé, qui ont pu venir deux par deux pour pouvoir se reproduire ensuite. Malheureusement, il n'y a eu que Noé et sa famille comme êtres humains. Dans le Nouveau Testament, il est dit que Noé était un prédicateur de la justice. Et cela signifie que Noé, et ce n'est pas raconté dans la Genèse, mais a prêché le jugement de Dieu. Pendant qu'il construisait son arche, ça a dû prendre un certain nombre de mois, ben, ses voisins ont dû venir voir et dire, Noé, qu'est-ce que tu nous fabriques là? Ça a l'air beau. Eh bien, je fais un bateau. D'accord, Noé, c'est bien, mais il n'y a pas la mer là. Il n'y a pas de rivière, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu vas faire avec un bateau comme ça au milieu de nulle part? Et Noé a dû leur répondre, Dieu m'a dit qu'il y aurait un jugement sur la terre, que tout être vivant serait détruit, sauf ceux qui rentrent dans cette arche. Et tous ceux qui rentreront seront sauvés. On peut imaginer la réponse de ceux qui l'entouraient. C'est ça, Noé. Tu peux toujours causer. Dieu t'a parlé. Tu as eu des voix. Tu as entendu des voix. Dieu va juger la terre. Tu nous fais bien rire, Noé. Voilà, au moins j'aurais ri une fois dans la journée en t'écoutant. Et Noé a dû insister, mais je vous assure que cela va arriver. Préparez-vous. Le jugement va venir, le déluge de l'eau va tomber et ne va pas s'arrêter pendant plus de 40 jours et tout sera noyé. On sait par le récit de la Bible hein, que non seulement l'eau est tombée du ciel, mais elle est sortie de la terre. Hein, les abîmes de l'eau ont jailli de la terre. Il y avait des sources d'eau énormes et ça a modifié totalement d'ailleurs notre planète. C'est pour ça qu'il y a tellement de sous la terre hein, de limon. Et de roches sédimentaires, comme on les appelle. Noé a prêché la justice, peu l'ont écouté, ça me fait penser à notre époque. Jésus, d'ailleurs, l'a dit en Matthieu chapitre 24, verset 37, lorsqu'il parlait de son retour, parce qu'ils lui ont dit, quand vas-tu revenir? Lui ont demandé les disciples. Quels sont les signes de ton avènement? Et en Matthieu 24, verset 37, Jésus dit, Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors en quoi ça va être pareil? Il n'y aura pas de déluge. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, donc la veille du déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce que Jésus voulait enseigner là? C'est que comme le jour du déluge, ceux qui n'ont pas écouté la parole de Dieu, ceux qui n'ont pas cru Dieu et son message, seront surpris. Ce sera soudain. Aujourd'hui, si j'allais dans la rue en disant « Repentez-vous, car le jugement de Dieu est proche », il y a des prédicateurs qui le font, hein, il y a des évangélistes qui le font. Mais je pense que rapidement, je serai entouré de gens disant, il faut l'enfermer à l'hôpital, il se prend pour qui? Je me souviens quand j'étais jeune, j'avais lu un Tintin, c'était l'étoile mystérieuse, et il y avait une comète qui tombait ou un astéroïde dans l'histoire, et il y avait un homme barbu avec une tunique blanche qui allait dans les rues en prêchant ça y est, c'est la fin du monde, et tout le monde commençait à paniquer, puis à se dire, mais non, mais qui c'est ce vieillard, qu'est-ce qu'il nous dit? Et puis finalement, la comète est tombée, mais ce n'était pas la fin du monde. Mais la Bible, très sérieusement, annonce la fin du monde un jour. Hein. Il y a un jour où tout cela va s'arrêter. Cette vie que nous avons, c'est l'économie, le monde, tout va s'arrêter parce que Dieu va dire, c'est l'heure du jugement. C'est l'heure du retour de Christ en gloire. Et les hommes, ce jour-là, seront surpris. L'arche de Noé est l'arche du salut. Et d'une certaine façon, l'arche symbolise Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont certains d'être sauvés. Qu'est-ce que Dieu a demandé à Noé? Est-ce qu'il lui a dit, eh bien Noé, tu dois prendre des rames et ramer pendant tout le déluge en espérant que tu arrives? Non, il n'avait pas à ramer. Tout ce qu'il avait, c'était à entrer dans cette arche. Dieu a lui-même a fermé la porte et il devait attendre la fin du déluge. J'imagine qu'il y avait quand même une certaine frayeur avec le bruit de l'eau, le bruit des éléments autour. Il y avait deux petites fenêtres sur le toit du bateau pour qu'il y ait le moins de trous possible, hein, pour que l'eau ne pénètre pas. Et il devait être là à attendre la fin, mais il était en pleine sécurité dans cette arche. Quand on met sa foi en Jésus-Christ, on est en pleine sécurité le jour du jugement. Il y a plusieurs jours de jugement dans la Bible. Le premier jour auquel on doit faire face, c'est notre propre mort. La mort est un jugement, dit l'Écriture. C'est le jugement sur nos péchés et tout le monde meurt parce que tout le monde est pécheur. Et on n'a pas besoin d'attendre la fin du monde, hein. Il y a déjà la fin de ma vie. C'est le premier jugement. Et est-ce que je suis prêt à affronter Dieu lorsque je vais mourir? À rencontrer Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, dit la Bible. Si je suis en Jésus-Christ, je n'ai rien à craindre. La Bible dit, tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont sauvés, ils ne peuvent pas être condamnés. Romains 8, 1, il n'y a aucune condamnation, aucune, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça me fait vraiment penser à l'arche. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans l'arche. C'est vraiment un parallèle, hein? C'est-à-dire que si j'ai mis ma foi dans le sacrifice, la mort et la résurrection de Christ, si Christ est mon sauveur, si je l'ai accepté en lui demandant pardon pour mes péchés, je suis sûr de passer le jugement de Dieu, comme ça, et d'être sauvé, d'aller au ciel, au paradis. J'en suis certain, aussi sûr que Noé était certain d'être sauvé dans son bateau. L'arche, c'est le bateau du salut. Est-ce que vous êtes dans le bateau de Christ? Il ne s'agit pas d'être dans une église. On peut être dans une église et ne pas être sauvé, ne pas être en Christ. Les chrétiens dans le Nouveau Testament, hein, c'était des gens qui avaient mis leur foi personnellement en Jésus-Christ. Ils avaient une relation personnelle. Ils avaient cru en lui. Ils n'avaient pas cru en un dogme ou en une religion ou en une église. On ne se convertit pas à l'église. Lorsque Paul écrit aux Thessaloniciens, il dit, vous vous êtes convertis à Dieu. On se tourne vers Dieu, pas vers une église, pas vers une religion. Et c'est Dieu qui nous sauve, c'est Dieu qui nous pardonne nos péchés à travers Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui a payé notre dette. C'est ça le message de l'arche de Noé. Ce n'est pas par des œuvres, ce n'est pas par la religion, ce n'est pas par des efforts qu'on se sauve, c'est en étant en Jésus-Christ. C'est Dieu qui fermera la porte lorsque ce sera l'heure de notre mort ou l'heure du jugement, parce que le deuxième jugement, c'est lorsque Christ reviendra juger la terre. Il y aura d'abord 3 ans et demi terribles, hein, de tribulation sur l'humanité, avec l'Antéchrist au pouvoir qui exercera une dictature mondiale. On a eu une petite idée avec Hitler. Hitler a failli réussir. et dominer le monde. Hein. S'il avait réussi à conquérir la Russie, eh bien, on était mal, parce qu'avec la Russie et toute l'Europe, la France et l'Angleterre auraient eu du mal. L'Amérique aurait peut-être pu empêcher encore. Mais on est passé à côté à ça, hein, d'une dictature mondiale. Aujourd'hui, on a le droit à l'État islamique. C'est une dictature mondiale, hein, digne des nazis. Ils ont les mêmes choses, hein, les mêmes croyances, dans le sens qu'ils exterminent tout ce qui n'est pas comme eux, et les juifs en particulier. Et cet État islamique, mais on se rend compte qu'il pourrait nous envahir, qu'il pourrait dominer le monde aussi. On essaie de les arrêter, mais on voit qu'ils gagnent des victoires. Ils viennent jusque dans nos portes, ici, hein, à Paris, en Angleterre, en Allemagne, en Danemark, en Australie, dans des pays normalement sûrs. Mais il y a un jour où l'Antéchrist va dominer le monde. Et ce sera un jugement terrible sur la terre. Je ne voudrais pas être là. Et si on est en Christ, tout cela nous est épargné. C'est ce que dit l'Écriture. Ceux qui sont en Christ vont échapper à la colère à venir. Et combien c'est une grâce de pouvoir se coucher le soir en disant « J'échappe à la colère à venir. » Ce qui va tomber sur ce monde, c'est malheureux, mais moi je vais y échapper parce que j'ai cru. Et quand on a cette joie, on veut la partager, on veut prêcher comme Noé, on veut dire, mais vous aussi, venez au Seigneur. Le deuxième bateau dont j'aimerais parler dans l'ordre de la Bible, c'est le bateau de l'obéissance ou de la désobéissance. C'est dans le livre de Jonas. Le prophète Jonas, c'est vers la fin de l'Ancien Testament. Livre de Jonas, c'est bien, ça vous fait chercher dans votre Bible. Un livre très édifiant, parce que c'est un prophète juif qui va prêcher à un peuple païen, un peuple non-juif, à Ninive, la capitale de l'Assyrie. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, « Lève-toi ». Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée contre moi, et jusqu'à moi. On voit un peu un parallèle avec le déluge, là aussi. Hein. Jonas se leva, et on est prêt à lire la suite. On se dit, ah, Jonas se leva, et il va à Ninive pour prêcher. Et qu'est-ce qu'on lit ? Stupeur. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alors voilà un drôle de prophète. Normalement, un prophète, quand Dieu parle, il obéit. Eh bien, Jonas, quand Dieu lui a parlé, il s'est enfui. On découvre plus tard dans le livre qu'il s'est enfui en partie parce qu'il ne voulait pas prêcher à ces non-juifs. Il avait un côté un peu chauvin. Il dit, ils ne sont pas juifs, et je te connais, Seigneur, il dit à Dieu, si je prêche le jugement, ils vont se repentir, et tu vas les pardonner, je te connais, Seigneur, tu vas les pardonner, et moi, je ne veux pas qu'ils soient pardonnés, je veux qu'ils payent, je veux qu'ils soient punis, ces Assyriens, parce que les Assyriens étaient un peuple quand même assez cruel, hein. C'était l'empire qui dominait la terre à cette époque-là, hein. Ninive, c'était une capitale extraordinaire, une immense ville, hein, plusieurs kilomètres de côté avec des remparts et une bibliothèque qu'on a retrouvée malheureusement calcinée. Hein. On aurait pu apprendre tellement de choses de cette bibliothèque que les archéologues ont découverte. Ninive, qui pendant longtemps n'était mentionnée que par la Bible, hein, et les historiens non chrétiens se moquaient un peu des chrétiens en disant, ou des juifs, ah, Ninive, oui, on n'a jamais retrouvé. Hein. Je pense que c'est une légende biblique. Et puis, un jour, un archéologue a découvert, en plein désert, voilà, en Irak, cette ville extraordinaire, sous le sable du désert. Ninive. Et Jonas, au lieu d'obéir, il désobéit. Pour désobéir, il prend le bateau le plus proche qui va l'amener le plus loin possible dans le sens contraire de la parole de Dieu. Il va aller à Tarsis, c'est l'opposé de Ninive. Hein. Voilà. Pour un juif, aller en Irak, c'était, il suffisait de marcher hein, quelques centaines de kilomètres vers l'est, mais prendre le bateau, ça voulait dire aller vers l'ouest, puisqu'il était en Méditerranée, et là, il devait s'enfuir le plus loin possible. C'est le bateau de la fuite, le bateau de la rébellion, de la désobéissance du croyant. Il a refusé de servir son Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a envoyé une terrible tempête. Jonas s'est réfugié au fond du bateau, dans la cale, pour dormir. Et je pense que Jonas, soit il était malade en bateau, ce qui est possible, et il était au fond, soit surtout il était en pleine dépression, avec sa conscience qui devait le tourmenter, de dire je fuis Dieu, je veux que personne ne me parle, je veux voir personne. Et il était tout seul dans cette cale, et la tempête était phénoménale au dehors, et les marins ont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on soit frappé par cette tempête? Et ils ont dit, mais il y a un juif là, dans notre bateau, c'est peut-être lui qui est au courant. Et ils vont chercher Jonas, ils disent, mais c'est à cause de toi qu'il y a la tempête ou quoi? Il dit, ah oui, c'est à cause de moi. Je sais pourquoi il y a la tempête, c'est Dieu qui l'envoie. Et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de jeter Jonas par-dessus bord pour se débarrasser du problème. Et le livre de Jonas nous raconte que Dieu avait placé un grand poisson juste là, près du bateau. Et quand Jonas est tombé dans l'eau, le grand poisson l'a avalé. Et le grand poisson l'a amené sur plusieurs milles et l'a recraché sur une plage. Et il n'avait que quelques pas à faire plus tard pour rejoindre Ninive. C'est Dieu qui a envoyé ce grand poisson. Dans ce grand poisson, Jonas est resté 3 jours et 3 nuits, dit la Bible. Hein. Et il y a vraiment une image là aussi de Christ qui est mort et qui a été enseveli 3 jours et qui est ressuscité le 3e jour, comme Jonas est sorti de l'eau le 3e jour. Et j'aimerais qu'on regarde juste Jonas 2, versets 1 et 2. Jonas est dans le ventre du poisson. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein de ces jours des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. » Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde, pour moi je t'offrirai des sacrifices. Avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. J'aime bien l'Éternel parla au poisson. Qu'est-ce qui est arrivé à Jonas? Il a vu la mort arriver. Évidemment, vous êtes avalé par un poisson. C'est arrivé hein, à un ou deux pêcheurs dans l'histoire de la pêche qui se sont retrouvés dans le ventre d'un grand poisson. Et c'est, ce qu'ils ont raconté, c'est horrible. C'est l'odeur, c'est la chaleur, c'est le bruit, c'est le noir surtout. Vous ne voyez rien et vous commencez à manquer d'oxygène. Hein. Et Jonas s'est dit, ça y est, c'est la mort, c'est la fin. Et se voyant mourir, il s'est repenti et il a regardé à nouveau vers Dieu. Lui qui fuyait Dieu de toutes ses forces, dans le sein du poisson, alors dans les ténèbres les plus totales, il a regardé vers Dieu et Dieu a parlé au poisson et le poisson l'a recraché. Il est ressuscité, hein, on pourrait dire, quelque part. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre comme leçon pour nous? Il y a des fois où le croyant désobéit à Dieu. Il y a des fois où on est animé d'un esprit de rébellion contre Dieu. On sait ce qu'il faut faire, on connaît la volonté de Dieu, Dieu nous l'a dit clairement, on l'a lu dans la Bible, on l'a entendu à l'église, ou on l'a lu dans un livre, ou peu importe, on sait la volonté de Dieu, mais on a décidé de ne pas la faire. Et on s'enfuit. Alors on va faire toutes sortes d'activités, toutes sortes de choses, on va voyager, on va partir, on va tout quitter, on va tout laisser tomber, surtout pour ne pas avoir à obéir à Dieu. Et là, on va mourir vraiment... spirituellement. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu est toujours là. Vous ne pouvez pas fuir Dieu. On ne peut pas lui échapper. Ses yeux sont partout. Il vous suivra partout. Vous pouvez aller sur une île déserte, l'endroit le plus inconnu du monde, dans la grotte la plus profonde. Si vous êtes spéléologue, Dieu vous verra là où vous êtes. Et dans le ventre du poisson, Dieu voyait Jonas. Et il a amené Jonas au fond de ce bateau et au fond de ce poisson pour que Jonas se repente. Parfois, quand on est chrétien, on a besoin d'une épreuve pour comprendre, pour avoir du plomb dans la tête. Quand on est rebelle, c'est difficile de faire comprendre quelque chose à un rebelle. Quelqu'un qui est rebelle, qui ne veut pas accepter la volonté de Dieu, vous pouvez lui montrer tous les arguments, mais regarde le verset de la Bible. Voilà. Vous pouvez montrer tout ce que vous voulez. Du moment que le cœur est en rébellion, on ne peut rien faire. Il faut que le cœur change. Il faut que la personne change d'attitude, de cœur. Comme notre frère nous l'a dit tout à l'heure, par rapport aux disciples d'Emmaüs, quand on entend la parole de Dieu, c'est avec quel cœur on l'entend ? Avec obéissance, avec foi, avec amour ou avec scepticisme, avec rébellion ? Et là, Jonas... Il est mort à lui-même quelque part dans ce poisson. Il est mort à sa rébellion, il est mort à son endurcissement. Il est mort, il ne voulait pas faire la volonté de Dieu et Dieu, justement, l'a amené au bout de lui-même. Et là, quand il est sorti du poisson, il est allé à Ninive. Dieu l'a rappelé, chapitre 3, une deuxième fois, va à Ninive. Et là, Jonas se leva, dit le verset 3 du chapitre 3, et il alla à Ninive. Dans la première fois, il avait dit « Jonas se leva et il alla à Tarsis », et bien au chapitre 3, il va à Ninive, il obéit. Et si nous sommes un chrétien en période de rébellion ou en période de défiance avec Dieu, si vous êtes dans ce cas, sachez que le Seigneur vous parle, veut vous parler, veut vous toucher. Il ne vous forcera pas, mais c'est à vous de changer de cœur, de vous laisser attendrir par l'amour de Dieu. Ce qui est touchant dans la Bible, c'est que Dieu n'est jamais celui qui punit gratuitement, il n'est pas celui qui frappe, il laisse toujours une chance. Au moment du déluge, Dieu a fait construire cette immense arche pour qu'il y ait plein de gens qui aillent dedans. Là, Jonas, il aurait pu le laisser aller. Tu veux aller à Tarsis, vas-y, je vais appeler un autre prophète. Mais non, Dieu avait choisi Jonas. Et il a fait passer cette terrible épreuve dans sa fuite pour que Jonas fasse la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on fasse sa volonté, Dieu veut qu'on soit des chrétiens obéissants. Alors, prenons comme exemple Jonas et ne faisons pas ce qu'il a fait, mais au contraire, soyons ouverts à la parole de Dieu. Troisième bateau, c'est dans les évangiles. C'est Marc chapitre 4, le bateau de la foi et de l'épreuve. Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : Passons sur l'autre bord. C'était le lac de Galilée. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Il faut savoir que dans les lacs, en particulier, j'ai vu ça de mes yeux, dans le lac Léman, en Suisse, comme c'est une sorte de grand cercle, lorsqu'il y a une tempête, il y a des effets de tourbillon comme dans un lavabo. Mais vraiment comme dans un lavabo, vous avez des tourbillons qui font plusieurs mètres de profondeur. Vous n'avez pas intérêt d'être à côté, parce que là, vous allez vous retrouver 20 mètres sous l'eau en une seconde, vous êtes avalé. C'est quelque chose d'horrible. Et je pense que dans le lac de Galilée, c'est ce qui s'est passé. Une sorte de grand tourbillon, parce qu'il y avait des vagues et du vent. Et ils ont vu leur bateau qui commençait à s'enfoncer, à descendre dans ce tourbillon. Quelque chose d'effrayant. Verset 38, lui, Jésus, dormait à la poupe. Donc la poupe, c'est où? C'est l'avant ou l'arrière? Et l'avant, ça s'appelle la proue. Bravo. On voit qu'il y a des marins ici dans l'église. Et lui, il dormait à la poupe, donc il dormait sur l'arrière, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Mais maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. » S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Dans ce miracle, les miracles avaient toujours un but. Hein. Jésus leur a montré qu'il était le Créateur. Il n'y a que le Créateur qui peut commander aux éléments. Il n'y a que celui qui les a créés. Qui peut parler au vent? Franchement, si je parle au vent, il va bien rire. Hein. Mais quand Christ parle au vent, le vent s'arrête. Et ça montrait sa divinité, ça montrait sa puissance créatrice, la puissance du Fils de Dieu. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il dormait. Franchement, quand un bateau est secoué dans une tempête, c'est la dernière chose que vous pouvez faire. Hein. Vous ne pouvez pas dormir. Et lui, il dormait. Mais de quel sommeil dormait-il? Il dormait du sommeil de la confiance en son Père. Du sommeil de la foi. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Il leur dit d'ailleurs, hein, gens de peu de foi, hein, pourquoi avez-vous si peur? C'est que si on est dans la volonté de Dieu, si on marche avec Dieu, on n'a pas à craindre les circonstances. Alors, j'avoue que quand on est dans des circonstances adverses, c'est dur. Et ça arrive d'avoir peur. On se dit, ça y est, je pense que c'est la fin, c'est ma dernière heure qui est arrivée. Ça peut être un accident, une maladie, un danger quelconque. Mais ce que Jésus veut nous apprendre, c'est que avec le Seigneur dans notre barque, nous n'avons rien à craindre. La barque, c'est une image de la vie, hein, de notre existence. Nous avons tous notre barque qui vogue sur la vie. Et est-ce que le Seigneur est dans la barque ou pas? Toutes nos barques vont affronter des tempêtes, des tourbillons. Hein. Il n'y a personne dans sa vie qui n'a jamais d'épreuves ou de gros conflits, de gros combats. Et le dernier étant, évidemment, la mort. Tout le monde affronte ces tourbillons terribles. Mais est-ce que Jésus est dans ma barque? Parce que si Jésus est dans ma barque, je n'ai rien à craindre. Je peux dormir en paix. Il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir la maladie, le chômage, des dangers de toutes sortes. Si le Seigneur est dans ma barque, je peux lui faire confiance. Et si le Seigneur est dans ma barque, je vais aller là où le Seigneur doit aller. Je vais faire sa volonté. Je vais aller à la destination qu'il a prévue pour moi, et rien ne m'empêchera d'arriver de l'autre côté. Hein. Jésus a dit, passons de l'autre bord. Rien ne m'empêchera d'aller de l'autre côté, parce que le Seigneur l'a décidé. Et je pense aussi à la mort, encore une fois, et à la vie éternelle. Hein. L'autre bord. Passons de l'autre bord. Le jour où je meurs, je sais que je vais aller de l'autre côté. Je vais aller dans la présence de Dieu. Peu importe la façon dont je meurs, j'ai la vie éternelle parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous avons besoin d'apprendre cette foi profonde dans le Seigneur. Les disciples ont cru que Jésus ne faisait rien, qu'il dormait, qu'il ne se rendait pas compte. Ils ont paniqué. Mais la foi, c'est que Dieu est toujours là. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il y a des fois, c'est vrai, où on panique un peu et on prie, on dit, Seigneur, fais quelque chose. Et puis on ne voit rien bouger, on se dit, ça y est, Dieu, il est en vacances, il tourne la tête, il ne me voit pas. Mais Dieu n'est pas en vacances, Dieu ne détourne pas la tête, Dieu voit tout, il est omniscient, omnipotent, il est le Créateur, il n'y a rien qui lui échappe, tout ce qui vous arrive, il le sait exactement. Et donc, il faut simplement rester attaché à lui par la foi. Et c'est vrai que la foi, une difficulté, c'est que la foi, c'est sans voir. La foi, c'est, elle croit l'invisible. Elle croit que Dieu est là, même si on ne le voit pas. Et on ne le voit pas, mais il est là. Et il nous faut apprendre à vivre par la foi, c'est-à-dire à faire confiance à Dieu sans le voir. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu ». Et Pierre écrit dans une de ses épîtres « Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Nous vivons dans la foi sans voir, mais nous avons confiance. Seigneur, je sais que tu es là, tu es dans ma vie. Je t'ai accepté un jour, tu es dans ma vie, tu es dans ma famille, tu es dans ma barque. Et tout ce qui m'arrive est dirigé par toi. Le dernier bateau dont j'aimerais parler ce soir, c'est dans le livre des Actes, c'est le bateau du miracle, le bateau du témoignage. Et c'est avec l'apôtre Paul. Acte 27. Paul est un prisonnier des Romains et des soldats l'amènent vers Rome et là, ils doivent traverser la mer. Donc, ils prennent le bateau, mais... Verset 9 d'acte 27, « Un temps assez long s'était écoulé, la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée, donc ça, l'hiver commençait à arriver, et avec l'hiver, les tempêtes sur la Méditerranée, c'était donc dangereux de naviguer. Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centurion écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Bon, on peut comprendre, Paul est un prisonnier juif. Le centurion et le pilote, ce sont des Romains, ou des, en tout cas, ils ne sont pas juifs. Ils n'ont pas spécialement foi au Dieu de Paul. Ils disent, mais qu'est-ce qui il est, lui? C'est un prisonnier, mais qu'est-ce qu'il vient nous dire? C'est pas, vous êtes pilote, vous êtes capitaine de... Non, je suis serviteur de Dieu. Bon, taisez-vous. Nous, on sait ce qu'on fait, on va prendre le bateau et on va y aller. Et donc, ils prennent le bateau confiant dans leur propre sagesse. Mais Paul leur avait dit, il va y avoir des problèmes. Et le problème est arrivé. Une tempête, là encore, est arrivée. Le vent qu'on appelle Euraquilon, verset 14, se déchaîna près de l'île de Crète. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Parfois, dans une tempête, il vaut mieux dériver, hein. Il faut abaisser toutes les voiles et laisser la tempête passer. Donc, le bateau est emporté au gré des vents. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. La chaloupe, c'était ce bateau de sauvetage qui était toujours attaché à l'arrière. Ils ont dû la remonter pour qu'elle ne soit pas détruite par la tempête. Ils abaissent les voiles. Il se laisse emporter. Le troisième jour, nous lançâmes de nos propres mains les agrès du navire, les ancres. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. La tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Encore une tempête terrible. Ils ne voient ni le soleil ni la lune. C'est le noir total, le grain là, qui tombe des hautes vagues. Ils se sont dit, ça y est, on ne va pas sortir vivant de cette tempête. On n'avait pas mangé depuis longtemps, verset 21. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Et la 14e nuit, ils étaient ballottés, ils ont jeté la sonde, ils ont vu qu'ils s'approchaient de la terre. Les matelots, verset 30, cherchent à s'échapper du navire. Ils se disent, vite, avant que le bateau s'écrase contre des rochers, il faut aller dans la chaloupe et se sauver. Et Paul les retient, leur dit, non! « Restez tous sur le bateau, nous ne serons sauvés par Dieu que si nous restons tous sur le bateau. » Et les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber, c'est-à-dire les soldats obéissent à Paul, hein, et ils lâchent la chaloupe pour que personne ne puisse se sauver. Et effectivement, tous sont sortis vivants de cet échouage, ce qui est un miracle, parce que normalement, quand un gros bateau s'échoue, vous mourrez écrasé, vous mourrez noyé. Et là, tous s'en sortent. D'ailleurs, verset 42, « Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelques-uns n'échappent à la nage. » Alors là, autre danger pour Paul, ils ont dit, on a des prisonniers, ils vont s'échapper dans le naufrage, il vaut mieux les tuer avant. Mais le centurion qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou des débris. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. On voit encore la main de Dieu. Il a sauvé tous ses marins. C'est le témoignage de Paul qui agit là. Qu'est-ce qu'on apprend? Et je terminerai ce soir avec cela. On apprend que rien n'arrête le plan de Dieu. Dieu avait dit, Paul doit comparaître devant César. Et à cause de Paul, ce bateau devait être sauvé. Il y a plein de bateaux qui sont écrasés, échoués. Il y a eu plein de marins qui sont morts, hein, dans l'histoire. Mais ce bateau-là ne pouvait pas s'échouer. Et tuer, en tout cas, il pouvait s'échouer, mais pas tuer les marins, parce que Dieu l'avait décidé pour que Paul arrive devant César et qu'il puisse témoigner du Seigneur Jésus devant César. Ensuite, Paul fait une sorte de prophétie. Hein, il dit, attention, nous allons avoir des problèmes, le navire va périr. Personne ne l'écoute. Et puis finalement, il devient le capitaine du navire. Au bout d'un moment, quand c'est la panique à bord, c'est Paul qui donne des ordres. Allez, non, il ne faut pas sauver, manger quelque chose. C'est le prisonnier qui devient capitaine. Mais comment Paul devient-il capitaine comme ça? C'est par sa foi. Il a une pleine confiance que Dieu va accomplir ce qu'il a dit, que sa parole est vraie et que quand Dieu dit quelque chose, les choses arrivent. Il dit, n'ayons pas peur. Franchement, si c'était moi, j'aurais paniqué. Mais lui, en pleine tempête, il dit, ah, personne ne descend du bateau, il faut qu'on reste tous. C'est un conseil fou. Normalement, quand il y a la tempête et vous voyez le bateau qui s'approche des rochers, vous dites, sautez, tout le monde saute. Et là, Paul dit, non, on va tous rester et on va s'accrocher à des planches et on va tous s'en sortir. Mais c'est parce que Dieu était là. Ce n'est pas parce que Paul était un grand marin. Paul n'était pas un grand marin. C'est parce qu'il avait la foi en Dieu. Et son témoignage a touché beaucoup de gens, notamment le centurion, hein, qui le gardait. Et tous ces marins ont dû se souvenir toute leur vie. Je me souviens du jour où il y avait cet apôtre de Jésus-Christ qui nous a dit tout ce qu'il fallait faire et tout s'est accompli selon la parole de Dieu. Combien c'est important d'être un témoignage partout où l'on est, de faire confiance à Dieu partout où l'on est, dans toutes les situations. On ne se rend pas compte, mais les gens autour de nous nous regardent. Quand ils voient que nous avons la paix du Seigneur dans des circonstances difficiles, ils se disent, mais comment tu fais pour avoir la paix? Moi, j'essaye tout, j'ai la sophrologie, la méditation, je mets de l'encens dans la maison, mais je n'arrive pas à avoir la paix. Mais la paix, elle vient de Dieu qui donne dans le cœur, elle vient de ses promesses. La Bible est un rocher, on peut s'appuyer, c'est les promesses de Dieu. C'est imperturbable quand on est fondé sur la parole de Dieu. Ma vie repose sur la parole de Dieu. Mais quand on est bâti sur du sable, hein, la parole des hommes ou de la sagesse humaine, alors là, on est en danger. Et Paul a témoigné de cela. Hein. Obéissez à Dieu, comptez sur sa grâce, parce que là encore, Dieu a voulu sauver tous ces hommes. Et c'est une image de notre terre. Dieu veut sauver tous les hommes sur cette terre. Vous savez que la terre est une sorte de vaisseau spatial. Hein. Je ne dis pas ça au sens propre, hein. Mais c'est la terre vogue dans l'espace, quoi. Toutes les planètes sont et elles voguent avec une précision fantastique, hein. Elles tournent vraiment, là, selon un schéma invisible, mais elles tournent toujours au même endroit. Et sur ce bateau, nous sommes tous là, et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu a envoyé son Fils pour que tous les hommes puissent être sauvés. Maintenant, c'est aux hommes de se repentir et de se tourner vers le Seigneur. Nous sommes des Paul, hein, sur ce bateau qui s'approche du naufrage, et nous devons parler du Seigneur, nous devons déclarer ce que la parole de Dieu déclare. Que Dieu nous aide à nous rappeler de ces bateaux, le bateau du salut, c'est l'arche de Noé, le bateau du refus ou de l'obéissance, le bateau de Jonas, le bateau de l'épreuve, la barque des disciples, et le bateau du témoignage, le bateau de Paul. Et que nous soyons des bons marins dans cette vie. On va terminer avec les dernières strophes et puis la prière.